RCF.
Bonjour chers auditeurs de RCF Vendée et bonjour Père Antoine Noévy.
Bonjour Nathalie.
Nous continuons avec vous à travers notre émission L'Église en question. Nous continuons la découverte de l'Église et plus spécifiquement depuis quelque temps ce qui structure l'Église et dans les sacrements, le sacrement de l'ordre qui est divisé en trois, le sacrement épiscopal qui est à la tête, le sacrement sacerdotal ou presbytéral et le sacrement diaconal. Vous aviez commencé par les diacres, vous y aviez consacré pas assez de temps à mon goût, mais oui. Quand même, vous avez bien su nous montrer l'importance du diaconat. Aujourd'hui et depuis déjà deux émissions, nous nous intéressons au sacerdoce, au presbytéral, c'est-à-dire aux prêtres qui sont peut-être la partie que nous croyons le mieux connaître de nos ministres ordonnés. Et donc dans cette rubrique que vous aviez intitulée « Église, communauté de foi, communauté d'interprétation », nous sommes toujours à essayer de comprendre, de mieux saisir, et jamais totalement puisque c'est un mystère, ce qu'est notre Église, quel est son but, ce que Dieu a voulu en créant cette Église, et quels en sont, si je puis dire, les ressorts. Donc les prêtres qui sont des ministres ordonnés joue évidemment de façon très visible un rôle important dans notre Église. Et pourtant, là aussi, vous nous avez réservé quelques surprises, en particulier, vous riez, parce que la dernière fois, pour ceux qui nous avaient écoutés, moi j'étais très très contrariée de la façon dont le Père a présenté les prêtres du Moyen-Âge, très rapidement, oui. Parce que malheureusement, il ne peut pas y consacrer beaucoup de temps. Bon, on avait quand même terminé sur une note positive sur le presbytérat et vous nous aviez expliqué que la réforme protestante avait été bien sûr une des réactions contre des abus ou des insuffisances du clergé, mais également la contre-réforme du concile de Trente n'avait en quelque sorte pas attendu non plus les protestants pour essayer de mettre bon ordre et de structurer de façon beaucoup plus claire quelle était la mission du prêtre.
Oui.
Et il me semble que, comme tous les conciles, ça met des années et des années avant d'être réellement mis en œuvre. Mais je crois savoir que, effectivement, les prêtres, on va dire issus du concile de Trente, ont été quand même pour nous des modèles. En tout cas, une grande majorité d'entre eux sont devenus ce qu'on pourrait appeler des très bons prêtres.
Oui, absolument, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? J'imagine que vous n'allez pas traîner non plus. J'ai cru comprendre que c'est pas sous le biais de l'histoire qu'on allait aborder vraiment le sujet.
Oui, alors on va essayer, sans rentrer dans les détails historiques, les descriptions que vous venez de donner seront les empreintes fondamentales du prêtre, du sacerdoce ministériel jusqu'au Concile Vatican II, qui va donner un souffle nouveau à la compréhension de l'être du prêtre, sa mission et sa relation avec son évêque et avec les laïcs. Nous allons donc aujourd'hui parler du presbytérat, selon le Concile Vatican II. Le sujet est certes vaste, mais vu le chantier qui nous attend, nous essaierons de l'aborder au cours de cette seule émission. Donc on va faire très vite sur une période très enrichissante sur le sacerdoce des prêtres.
Très bien, bon, j'ai compris, on va encore avaler des grosses bouchées.
Oui, oui.
Chers auditeurs, vous devez être comme moi, c'est-à-dire que si on veut vraiment en savoir plus, eh ben c'est à nous de bosser et puis d'aller chercher les bons bouquins, je
c'est
crois.
Ça, c'est ça.
Alors, que nous dit le Concile Vatican II sur l'ordre du presbytérat?
Alors,
c'est nouveau.
Oui, c'est nouveau.
C'est nouveau.
C'est nouveau. Alors,
d'accord.
Alors, pour ceux qui veulent approfondir la question,
nous y voilà.
Il faut d'abord se mettre à l'école de la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église. La vision de cette constitution situe le presbytérat dans une Église de communion, au cœur du sacerdoce commun des fidèles. Donc, nous sommes tous baptisés prêtres, prophètes et rois. Et la Constitution dit ceci, le Christ Seigneur, grand prêtre, d'entre les hommes, a fait un peuple nouveau, un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes leurs activités du chrétien autant d'hosties spirituelles en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun, selon son propre mode, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Là, je viens de citer Lumen Gentium, le paragraphe 10. Cette ouverture est fondamentale pour situer le prêtre dans une église de baptisés, au sein de laquelle il exerce son ministère au service de l'ensemble du corps ecclésial. Et pour découvrir maintenant la nature du presbytérat, il faut plutôt s'intéresser aux deux du Concile Vatican II, Presbyterorum Ordinis, et le paragraphe 2 dit ceci, le Seigneur Jésus, que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, fait participer tout son corps mystique à l'onction de l'Esprit qu'il a reçu. En lui, tous les fidèles deviennent un sacerdoce saint et royal, et offrent des sacrifices spirituels à Dieu, par Jésus et proclame les hauts faits de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a donc aucun membre qui n'ait part dans la mission du Christ tout entier. Chacun d'eux doit sanctifier Jésus dans son cœur et rendre témoignage à Jésus par l'esprit de prophétie. Et je continue un tout petit peu. Le décret dit, mais le même Seigneur voulant faire des chrétiens un seul corps où tous les membres n'ont pas la même fonction, a établi parmi eux des ministres qui, dans la communauté des chrétiens, seraient investis par l'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice et de remettre les péchés. Je m'arrête là pour dire que il y a quelque chose de fondamental que nous avons dit plusieurs fois ici, et c'est cela qui est exprimé dans Presbyterorum Ordinis. Je l'ai répété plusieurs fois, et cela touche à la nature sacerdotale de l'Église catholique. Je l'ai répété plusieurs fois, cette nature sacerdotale, on peut l'expliquer comment? Dieu qui veut nous sauver passe par l'un d'entre nous pour nous sauver, et ici, il s'agit du prêtre.
Vous êtes sur RCF Vendée, c'est l'église en question avec le père Antoine Nouavi qui aujourd'hui nous fait découvrir ce que Vatican II et plus particulièrement la constitution Lumen Gentium, ce que Vatican II dit du prêtre et du laïc finalement.
Oui, oui, tout à fait.
Et alors moi je découvre quelque chose, c'est que peut-être d'une façon un petit peu banalisée, mal comprise, j'avais bien compris que Vatican II redonnait une dignité à l'État laïque.
Oui.
J'avais cru comprendre que c'était peut-être un peu au détriment du rôle du prêtre. Ce que je découvre, c'est qu'au fond, Vatican II nous demande à tous, non pas d'être comme des laïcs, prêtres compris, mais à tous d'être des prêtres laïcs,
oui,
compris.
Oui, c'est
en
ça.
Réalité.
Oui.
Donc finalement, c'est très exigeant.
Et chacun, suivant son rang,
bien sûr, chacun
doit
a
participer
sa place
à l'unique sacerdoce de l'Église.
En particulier par l'offrande,
c'est
de sa vie.
C'est tout à fait ça.
Et le laïc là-dessus rejoint. Et puis, je vois aussi, je m'aperçois dans le second texte, l'insistance que porte Vatican II à la grande différence,
oui,
quand même, qui existe entre les deux États, qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas, enfin, qui sont tout à fait distinct.
Distinct, tout à fait.
Avec, évidemment, les sacrements, la grâce donc, de Dieu qui passe par des ministres,
voilà,
ordonnés.
Pour,
ça,
pour rejoindre,
voilà,
l'ensemble.
Et c'est vrai qu'en fait, quand on se donne le mal de retourner au texte, les choses sont assez claires.
Donc, il faut lire les textes.
J'ai bien compris le message. Et vous aussi, n'est-ce pas? Voilà. Alors, cette référence donc a trait vraiment à la nature de l'ordre du presbytérat et vraiment en ce qui concerne la fonction même des prêtres catholiques. Est-ce que là aussi le Vatican II est rentré dans les détails ? Est-ce que d'autres textes sont venus préciser exactement ?
Alors, on va continuer à lire Presbyterorum Ordinis, qui est un décret. Il va parler de trois fonctions. Et les trois fonctions, je les cite, les prêtres sont ministres de la parole de Dieu, les prêtres sont ministres des sacrements et de l'Eucharistie, les prêtres sont chefs du peuple de Dieu. Presbyterorum Ordinis. Donc, il faut le lire. Et je lis une séquence ici. Exerçant pour la part d'autorité qui est la leur, la charge du Christ tête et pasteur, les prêtres, au nom de l'évêque, rassemblent la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme, et par le Christ dans l'esprit, ils la conduisent à Dieu le Père. Pour exercer ce ministère, comme pour les autres fonctions du prêtre, ils reçoivent un pouvoir spirituel qui leur est donné pour l'édification de l'Église. Dans cette œuvre de construction, la conduite des prêtres, à l'exemple de celle du Seigneur, doit être extrêmement humaine envers tous les hommes. Ce n'est pourtant pas selon ce qui plaît aux hommes, mais selon les exigences de la doctrine et de la vie chrétienne qu'ils doivent agir à leur égard, les enseignant et les instruisant comme des enfants et des enfants bien-aimés selon les paroles de l'apôtre, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec beaucoup de patience et le souci d'instruire. Fin de citation. Ces trois fonctions correspondent à ce qu'on appelle la triamunera. Et la triamunera, c'est la fonction prophétique, le munus docendi, le magistère authentique exercé à travers l'apostolat. La deuxième fonction, la fonction pastorale, la munus regendis, le gouvernement papal et épiscopal guide les fidèles et leur offre l'Eucharistie. Et la troisième fonction, fonction sacerdotale, les prêtres renouvellent, donc munus sanctificandi, les prêtres renouvellent la messe à travers le Christ et les fidèles sanctifient les choses terrestres. Alors, pour aller plus loin dans ces considérations, parce que nous sommes passés très rapidement sur les choses, je crois que pour être complet sur le chapitre du prêtre, il faut, pour être tout à fait complet, aller lire après Lumen Gentium, après le Presbyterorum Ordinis, il faut surtout, et je le conseille à nos auditeurs, aller lire le droit canonique, le code de 1983. Ce code dit ce que le prêtre catholique doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et ce qui le contraint à être fidèle au Christ. Donc, il y a des règles et à travers ce code de droit canonique, on trouve ces règles. Donc, pour parler du prêtre, il faut se référer aux deux documents dont nous avons parlé, Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis, mais il faut aller aussi voir le code de 1983.
Qu'on peut trouver sur Internet ?
On peut trouver tout le code sur Internet.
Écoutez, moi, ce que j'en retire, c'est que finalement, je suis plutôt impressionnée par ce que Vatican II, en tout cas, redit et redéfinit de la fonction du prêtre, avec, en fait, je dirais presque une autorité renouvelée, contrairement à ce que j'imaginais, et ce qui aussi entraîne la nécessité pour les prêtres de se fixer vraiment sur le modèle du Christ pour pouvoir, avec justesse, appliquer une telle mission.
Absolument.
Et on comprend mieux aussi le scandale que peut créer un prêtre quand il dévie et quand sa vie est contraire au rôle que le Seigneur lui a assigné et l'Église lui a confié. Bien, eh bien écoutez, on n'a pas perdu notre temps. Complétons par les lectures si nous voulons en savoir un peu plus et de façon plus précise. Donc je vous laisse à vos lectures, chers auditeurs de RCF Vendée. Je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de notre radio.